Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute!
Ouais, marhaba. Salut. Ciao. Salud. Allô. Niao. Hello. C'est ce qui représente aujourd'hui notre sujet de discussion. Dans cet épisode, nous allons parler de plurilinguisme. C'est un de nos sujets coup de cœur à Lucille et moi, car notre environnement personnel et professionnel est plurilingue. Alors, dans l'épisode 7 de la deuxième saison du balado, Camille Trou discutait, elle déconstruisait en fait des mythes, les mythes autour du bilinguisme. Et aujourd'hui, avec Carole Fleuret, professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, elle nous explique les interventions à privilégier comme orthopédagogue avec des apprenants plurilingues. Nous tenons à vous remercier de nous écouter et de diffuser ce balado. Nous recevons de beaux témoignages et cela nous touche. Bonjour Carole, merci de prendre le temps de nous rencontrer.
Bonjour, bonjour à vous deux et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ravie d'être avec vous pour parler plurilinguisme.
Tes sujets de recherche portent entre autres sur la didactique des langues secondes et le plurilinguisme. Comme je l'ai dit, c'est notre sujet d'échange aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler des bonnes façons de procéder pour construire du sens autour du code de langage chez les élèves allophones?
Oui. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que faut faire attention avec ces qualificatifs de bonne pratique, mauvais exemplaire ou choses comme ça. Ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Mm-hmm. Les langues, c'est quelque chose de dynamique et de vivant, mais il y a aussi des langues qui se ressemblent, les langues alphabétiques, comme par exemple l'espagnol ou l'italien, qui ont ce qu'on appelle des orthographes transparentes, c'est-à-dire qu'on peut traduire l'écrit vers l'oral vers l'écrit de façon très facile. Mais quand on a des langues plus sémitiques, comme l'arabe par exemple, ou le farsi, des langues qui n'ont pas justement de code alphabétique, eh bien ça va demander aux enfants des appropriations qui sont différentes, on va dire. Donc ce qui peut convenir à des élèves par exemple hispanophones qui entrent dans l'écrit en français va différer des élèves, par exemple, arabophones qui vont entrer dans l'écrit en français. Déjà, la linéarité de la langue, de l'écriture. On va de droite à gauche, alors que là, il faut aller de gauche à droite. Donc, tout ce qui va concerner le visuo-spatial, la représentation dans l'espace va être quelque chose d'important. Les lettres aussi, qui sont totalement différentes. On parle de signes plus en arabe, alors qu'on a des lettres dans le code alphabétique. Donc, l'idée, c'est de trouver des pratiques qui soient, je dirais, plus signifiantes pour les élèves, plus que bonnes. C'est parce que c'est des fois des qualificatifs qui sont un petit peu, qu'on a tendance à généraliser à tous les élèves. Alors, entrer dans le code d'écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, quand on possède un répertoire langagier pluriel, ou même quand on a juste deux langues, eh bien, il faut pas oublier que lorsqu'un élève arrive dans les classes, c'est pas des tabula rasa. Ils ont beaucoup de connaissances sur leur langue, même s'ils n'ont pas été scolarisés, ils ont des connaissances à l'oral, dans la structure de la langue, dans la phonologie de la langue d'origine. Et la première des choses qui va être à faire, bien évidemment, c'est de développer un répertoire phonologique en français. Quand on vient d'une langue alphabétique, c'est plus facile parce que on est sur des systèmes vocaliques, donc il y a des voyelles. Mais encore une fois, quand on est dans des langues sémitiques comme l'arabe, qui est une langue consonantique, on a juste trois voyelles qui ont été ajoutées, d'ailleurs, pour qu'on puisse produire de l'écrit dans la société. Alors, imaginez-vous que quand on passe de la langue arabe à la langue au français, eh bien, il y a tout un apprentissage à faire au niveau de phonologique, parce qu'il y a des voyelles qui n'existent, comme je le disais, pas en français. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Par exemple, en orthopédagogie, moi j'ai beaucoup d'enfants qui avaient du mal à sortir le son en, les nasales, hein, c'est quelque chose qui est difficile. Alors l'idée, c'est d'aller de renforcer en fait à travers des activités justement cette construction neurologique et puis phonologique en fait pour que ce répertoire se mette en place. On a la même chose, on a par exemple chez les hispanophones, entre le V et le V, on a aussi du travail à faire à ce niveau-là. Alors, on le fait à travers des activités qui peuvent être très ludiques. On peut apprendre en soufflant avec une feuille. On peut travailler devant un miroir, faire des mimiques avec la bouche, travailler la mémoire motrice. Bref, il y a plein de façons de le faire. Mais il faut le faire de façon graduelle parce que faut pas oublier que le phonème, c'est la plus petite unité distraite de la langue, abstraite. Donc, il faut vraiment que l'élève ait le temps de développer des syllabes, donc ce qu'on appelle des unités sublexicales avant, pour arriver au phonème. Donc, il faut qu'il y ait une gradation dans les activités. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de travailler ce qu'on nomme la conscience aussi, la conscience phonologique. Donc, d'abord, la travailler à l'oral. Les travaux de Jim Cummins font légion, je dirais quand même, dans le champ de la langue seconde, où il a montré justement dans ses études, dans l'étude qui il a démontré ça dans ses résultats, c'est en 1979, à quel point il y a une interdépendance entre les langues. Donc, si on a des assises en L1, eh bien, faut continuer justement de les développer pour pouvoir permettre un développement d'assises en L2. C'est ça qui va créer un fondement qui, graduellement, si on continue de développer la L1, parallèlement à l'apprentissage de la langue de scolarisation, eh bien, c'est ce qui va amener un bilinguisme additif. Donc, dans tous les cas de figure, c'est important qu'à la maison, l'apprenant continue de développer son code écrit dans sa langue, s'il en a un, ses capacités phonologiques ou sa conscience phonologique, s'il en a une il en a une, c'est sûr, dans sa langue, mais vraiment passer de l'oral pour aller vers l'écrit. Et cet exercice-là est pas toujours fait. Donc, l'orthopédagogue, je dirais que c'est un petit peu son rôle, c'est vraiment de renforcer ça chez les apprenants en langue seconde. Parce que souvent, ce qui est lacunaire, c'est le développement justement de cette conscience phonologique. Et quand les élèves entrent dans l'écrit, eh bien, ça crée bien évidemment une espèce de rupture, en fait, parce que comme ils n'ont pas discriminé, bah, ils reproduisent la trace écrite qu'ils entendent. Donc, ce qui peut les amener, entre guillemets, à considérer ça comme une faute pour l'enseignant, alors qu'en fait, non, c'est simplement que la discrimination n'est pas là.
C'est intéressant. Puis justement, tu parles de L1, puis la maison, l'environnement de l'élève, oui. Ce qui m'amène à penser à la culture des apprenants. On sait qu'il est important d'être sensible et de s'intéresser au bagage de nos apprenants. Quelle place peut-on accorder à cette culture, justement, dans nos interventions orthopédagogiques ou nos interventions en général?
Je dirais que ça devrait être tangible tout le temps. Souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les écoles, on va faire des activités extrêmement ponctuelles autour de la diversité. Hein. On va faire quand c'est le Ramadan, on va faire une fête autour de la Eid. Mais on fait quoi les 364 autres jours de l'année? Donc, travailler dans un contexte de diversité ethno-linguistique et culturelle, bien évidemment, ça fait appel à une prise. Si on veut vraiment être profondément inclusif dans nos démarches, qu'on soit orthopédagogue ou enseignant, je m'arrête là, mais ça pourrait être tous les acteurs scolaires ici, eh bien, il faut que la diversité soit la toile de fond de toutes les interventions, y compris dans les agirs enseignants. Donc, cette culture de la maison, elle est importante parce que d'abord, c'est ce qui fait écho à l'identité de l'élève, bien évidemment. C'est aussi à travers ses pratiques discursives qu'il est capable d'exprimer ses mal-êtres, ses frustrations, ses bonheurs, ses joies, ses questions, etc. Et c'est extrêmement violent quand on dit aux enfants, aux parents, pardon, de ces enfants-là, qu'il faut qu'ils parlent en français à la maison. Le français, c'est pas leur langue. En plus, eux-mêmes sont en train de l'apprendre. Ce sont des apprenants du français. Donc, avec ce que ça implique en termes de structures de phrases qui ne sont pas toujours syntaxiques, ce qui est normal. Mais lorsque l'enfant prend appui sur ces structures-là, après à l'école, on lui dit c'est pas bon. Mais c'est le français il faut qu'on l'oblige à parler à la maison. Donc, je pense qu'il faut que chacun reste à sa place ici. La famille, elle a une place de premier ordre. On doit légitimer bien sûr que l'idée, c'est pas de délaisser la langue de l'école. Il faut qu'elle soit apprise pour que l'élève puisse s'intégrer. Réussissent sur le plan scolaire, mais s'intègrent aussi socialement dans la société d'accueil. Mais il faut aussi légitimer le capital social des parents. C'est absolument, autrement, c'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique, c'est-à-dire qu'on ne va chercher que la valeur du groupe dominant et qu'on décrédibilise, si je peux dire, le groupe dominé. Et c'est souvent le cas. Il y a Fazal Kanouté a fait des études très intéressantes là-dessus, qui montrent justement à quel point il y a des parents qui ont l'impression de pas être des bons parents parce qu'on leur dit comment élever leurs enfants, ce qu'il faut faire, etc. Alors que leurs repères, leurs normes socioculturelles sont différentes. Donc l'idée, c'est pas d'édifier une au détriment de l'autre, c'est de travailler conjointement dans une perspective interculturelle, c'est-à-dire prendre ce qui vient de la maison, le capital social de la maison, et l'arrimer au capital social de l'école pour faire une culture commune où que ce soit les enseignants, les orthos, les élèves, les parents, tout le monde trouve une place de choix.
Je trouve ça tellement, tellement, tellement pertinent. Vous avez pas, tu as parlé d'arrimage, en fait, plutôt que d'isoler une ou de laisser plus de place à une autre. Merci pour ce partage. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le sujet du code écrit, j'y vais avec une troisième question. Pour apprendre le principe alphabétique, plus spécifiquement le code écrit, il est important de développer les capacités métaphonologiques des apprenants, aussi appelées la conscience phonologique. Mm-hmm. Comment faut-il s'y prendre dans un contexte plurilingue?
Comme je l'ai un petit peu souligné tout à l'heure, il faut y aller avec une variété d'activités. Après, ça dépend quel niveau on vise. Par exemple, en maternelle, on sait que le prénom des enfants, le prénom des amis, c'est quelque chose qui a une valeur affective qui est très porteuse, en fait. Alors, on peut commencer comme ça. On peut commencer avec le prénom des amis. Qui peuvent être, tu sais, Mohamed, nous on lit Mohamed, mais en arabe on ne prononce pas Mohamed, le he, il est là, donc il faut, tu comprends, donc on peut demander à l'enfant de dire à ses amis comment, dans la langue, c'est peut-être pas sa langue parce qu'il est né ici, mais peut-être la langue de ses parents, donc ça aussi il faut faire attention, de dire, s'il le souhaite, on n'impose pas, on propose, on n'impose pas, ça c'est important. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent se sentir stigmatisés, genre je suis différent des autres, donc on propose, jamais on impose, on invite. Mais on peut dire à l'enfant, comment on dirait dans ta langue ou dans la langue de papa-maman, comment il se dit ton prénom? Puis après, souvent les enfants adorent ça, hein, parce que comme je vous disais, il y a une valeur affective importante. Moi, ça m'est arrivé de le faire en classe d'accueil à Montréal. Puis après, il y a une petite fille qui dit « Ah ben moi, dans ma classe, on dit Carolina, en espagnol, on dit Caroli, ok. » Puis ça donne le fil et puis… Finalement, les enfants se rendent compte que ben il y a différents accents, il y a différentes tonalités, il y a différents sons, et que donc il y a des voyelles, il y a des points communs avec des choses qu'ils sont capables de reconnaître dans leur langue, mais il y en a d'autres qui sont différentes. Et puis ça peut être une activité pour développer les répertoires, par exemple. On peut aussi travailler l'écrit juste comme ça pour les exposer à différentes graphies. Ça c'est intéressant aussi parce que on met l'accent sur le fait que les élèves allophones, ou en tout cas qui ont des répertoires bi-plurilingues, c'est toujours eux qu'on met de l'avant. Mais ce qui est important, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la diversité c'est une richesse, c'est pas un problème, et que si très très tôt on sensibilise justement les enfants à ce qui les entoure, notamment aux différents enfants, à leurs amis qui viennent pas toujours du même coin qu'eux. Eh bien, ça les ouvre au monde, ça développe une identité citoyenne et puis ça les rend aussi beaucoup plus empathiques à l'égard de l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place très tôt. Et je veux dire, faut le faire de façon, c'est pas genre, oh ben, aujourd'hui, on va parler. Non, faut que ça se fasse à travers des activités spontanées. Faut jamais oublier le côté spontané. On sait, par exemple, ça aussi, c'est une façon de travailler les capacités métaphonaux. On sait que les onomatopées d'un pays à l'autre sont très différentes. Alors, on peut y aller avec des livres de littérature jeunesse, justement, qui vont donner le cri des animaux. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Mais quand on travaille kiri-kiki ou kou-kou-kou, on travaille les sons. On travaille les voyelles, on travaille les perminimales, les syllabes. Donc, bref, on peut faire plein de choses à l'intérieur de ça. Donc ça peut être une idée pour les plus petits, je dirais, oui.
Intéressant, et aussi la mention de prendre connaissance du bagage des élèves, parce que tu mentionnais le fait de toujours demander, voir si la personne est à l'aise de parler sa langue aussi. Et tu as mentionné quelque chose plutôt par rapport à la L1 de l'élève, et s'il la parle en fait, s'il la pratique, et s'il y a ce contexte à la maison. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour aborder cette situation avec les élèves pour ne pas stigmatiser dans un premier temps? Mais j'ai aussi une sous-question dans le sens que lorsque l'élève ne maîtrise pas du tout la langue parlée à la maison, est-ce qu'il y a une préférence pour ou une pratique plus adaptée à cette situation, pour ne pas dire une bonne?
Ouais, ben disons que il y a quelque chose de complexe ici, c'est que il y a le parcours migratoire aussi quand les parents quittent leur pays pour venir ici. On n'a pas toujours le vécu migratoire. Il y a des parents qui sont réfugiés, il y a des parents qui sont émigrants. Donc on faut quand même rappeler qu'au Canada, une immigration elle est choisie. Que lorsque les parents arrivent ici, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Ils ont laissé énormément de choses derrière eux. C'est ce qui souvent amène de la précarité sociale parce qu'il y a une déqualification de leur diplôme. Donc, qui est souvent majoritairement pas reconnu ici. Donc, souvent, c'est des deuxièmes vocations pour les parents. Alors, c'est sûr que pour eux, parler la langue de la société d'accueil, c'est sine qua non à la réussite de leur enfant parce qu'ils ont quitté tout ce qu'ils avaient pour que ils soient le mieux possible et qu'ils aient la chance d'avoir une vie meilleure. Alors, il y a des parents qui vont, alors ça dépend d'où ils viennent, hein. Souvent, quand les parents viennent des anciennes colonies belges ou françaises, donc l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, etc., les parents sont locuteurs du français, justement, relant de la colonie, mais c'est le cas, parce que l'administration, l'enseignement se fait en français. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues qui se parlent à la maison, mais le français est quand même quelque chose qui est utilisé tout le temps. Chez les créolophones, notamment haïtiens, il y a aussi c'est pour ça que je dis que c'est complexe. Moi, je l'ai montré entre autres dans ma thèse de doctorat. Il y a toute cette dimension où parler le français, c'est la réussite du blanc. On va réussir si on parle le français. Alors, il y a toutes ces représentations aussi à l'égard des langues. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas une façon de faire. Il y a des façons de faire. Puis ça, je pense qu'il faut vraiment que ça soit très très clair. Et puis en orthopédagogie, je dirais. Pas plus, mais autant que pour l'enseignant, parce que le rôle de l'orthopédagogue, c'est d'être à la fois empathique, mais d'accompagner. Alors, pour accompagner, il faut essayer d'être le plus adéquat possible. Des fois, c'est pas toujours facile, mais il faut prendre appui sur le contexte familial de l'enfant. Donc, pas obligé à. Alors, c'est sûr que si on expose un enfant au français. Par exemple, qui vient du Moyen-Orient et puis où on parle vraiment l'arabe, c'est sûr qu'il faut qu'il apprenne le français. Donc, on peut proposer aux parents des activités parascolaires. Très souvent, en plus, ils vont aux écoles coraniques le samedi, comme les petits sinophones, ils vont à l'école pour le mandarin. Donc, on peut proposer des activités pour renforcer le français, mais on est qui pour dire aux parents? Comment dirais-je, il faut parler français à la maison ou non, donc je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence et beaucoup de respect. Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal en soi à te donner une réponse parce que c'est complexe en fait, c'est une dynamique. Et puis, en principe, l'orthopédagogue travaille aussi de concert avec l'enseignant qui est peut-être plus au courant de la situation, peut-être qu'elle peut aussi poser des questions sur justement l'histoire, tout ce qui peut l'enrichir en fait dans son accompagnement avec l'élève.
Dans un contexte scolaire, des fois, c'est plus difficile, mais ça me fait penser, ce que tu dis me fait penser aussi aux travaux et en fait, à certaines pistes que Garine Papazian met de l'avant auprès des
Exactement.
orthopédagogues.
Exactement.
C'est plus difficile en contexte scolaire parce que, en fait, une des propositions, c'est de faire l'entrevue avec les parents au début de l'année pour comprendre si la situation le permet, puis si les parents sont à l'aise, surtout, je pense, de comprendre le processus migratoire, le vécu et tout depuis un très jeune âge, parce que j'entends aussi dans tes mots, ça a une grande influence sur le parcours scolaire
Oui, et
des élèves.
puis entre autres, Canouté, avec plusieurs collègues, ont montré dans une étude qu'ils ont faite en 2016, ils ont justement exploré un petit peu comment les intervenants de la communauté ou scolaire se sentaient, ce qu'ils entendaient par rapport aux élèves migrants. Et puis, ils vivent beaucoup de deuil, ces enfants-là. Et c'est ça, en fait, moi, je pense très, très honnêtement qu'il faudrait vraiment que tous les acteurs, les intervenants scolaires, peu importe leur niveau, et vraiment soit sensibilisé par des formations sur qu'est-ce que le parcours migratoire, qu'est-ce qu'on laisse derrière. Même si on fait le choix de ces deuils-là, les enfants les accompagnent, ils laissent la famille, tous les liens affectifs qui sont forts, surtout quand on est petit, genre les grands-parents par exemple, surtout dans les familles élargies. Donc, il faut comprendre tout ça pour avoir le meilleur accompagnement possible. Puis aujourd'hui, on est beaucoup centré sur le bien-être, la santé mentale des élèves, et puis justement, Karine Papassian en parle beaucoup dans son modèle, mais moi je suis totalement d'accord avec elle. On ne peut pas juste dissocier l'enfant de l'apprenant. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours aux étudiants et c'est ce que je fais dans mes recherches, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on aborde enfin les immigrants et tout ça de façon holistique, c'est-à-dire dans un tout. Donc, les parents ont leur place. Tu sais, c'est un peu Bronfenbrenner, la macro, méso, micro, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut une vision qui soit d'ensemble, pas juste prendre l'élève, on doit renforcer telle chose en français, oups, on va le prendre. Oui, mais il y a une histoire, il vient pas juste en ortho, peu importe si c'est en dénombrement ou quoi, mais l'idée, c'est je pense qu'il faut travailler davantage de concert avec les parents, notamment, oui. Mais je suis complètement d'accord avec ce qu'elle propose, parce que la santé mentale, le bien-être de l'enfant, les habiletés psychosociales, c'est très important de les mettre en place quand on sait les deuils qu'ils vivent, quoi.
Tellement intéressant et pertinent. Je nous ramène un petit peu, tu nous parlais de l'importance, en fait, le rôle d'orthopédagogue pour renforcer la construction phono chez les apprenants. Ce qui m'amène à poser une question en lien avec la place à donner aux formes visuelles des mots, les représentations de la lettre, le tracé. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Oui, mais alors ça, c'est des choses, ça dépend à quel niveau on le fait. C'est surtout, je dirais, au premier cycle. Bien sûr qu'il faut se travailler, imaginez, un petit arabophone qui apprend le français, c'est… Parce que nous, on le fait, on l'apprend très tôt, mais en même temps, on développe une représentation mentale, on se fait une image des lettres et des mots, mais on développe aussi une mémoire motrice au fur et à mesure qu'on apprend justement l'appréhension du crayon, le tracé des lettres. Il y a des élèves qui ne viennent pas d'un principe alphabétique, alors il faut vraiment développer ce côté méta pour les aider justement à répondre à un besoin qui est un défi pour eux, c'est-à-dire comprendre que les lettres, on parle d'un signifié, c'est un sens, mais qu'on a différentes représentations de ce sens. Donc, ce qu'on appelle un signifiant à l'oral, puis un signifiant à l'écrit. Et à l'écrit, donc, il y a déjà la forme sonore qui va changer, mais à l'écrit, on passe d'un signe à une lettre. Alors, il faut exposer les élèves, faire les ça peut être les tracés qu'on fait. Il y a de très bonnes vidéos là-dessus sur la graphomotricité, mais même sans rentrer vraiment spécifiquement dans la graphomotricité, même si c'est important de le faire, mais ne serait-ce que modéliser au tableau, accompagner avec le doigt, montrer, alors c'est même chose, les formes visuelles, c'est aussi montrer ce qu'on appelle les allographes, donc les lettres majuscules, les lettres scrites, comment on les écrit en cursive, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent, c'est que on donne aux élèves des activités dans les manuels ou des choses comme ça qui sont écrites en script. Puis après, on leur demande en classe d'écrire en cursive. Donc, je pense qu'on a un petit souci ici. Alors, faut être vigilant là-dessus parce que l'élève, il va photographier, modéliser ce qu'il voit. Donc, écrire en cursive n'est pas forcément évident pour lui. Donc, plus on va les exposer à différents allographes, plus facile va être leur appropriation. Donc, et puis quand on a, quand ces sons-là existent dans une autre langue, ça peut être aussi intéressant peut-être de chercher l'équivalent. Il y a un clavier qui s'appelle Lexilogo qu'on peut avoir en salle de classe, que l'orthopédagogue peut avoir, qui est en ligne, qui est gratuit. Et puis, par exemple, si on voit que les élèves ont plus de mal, par exemple, avec la voyelle en, pour les arabophones notamment, je suis en train de réfléchir à ça, ça peut être une activité de renforcement que l'ortho peut faire. Elle peut aller chercher le visuel du « en », comment dirais-je, comment il s'écrit en arabe, par exemple, à quel moment on met le point, etc., puis montrer en français comment ça se fait, puis travailler autour de ce genre de choses. Bref, il y a des façons, toutes sortes de choses aujourd'hui. On a un avantage avec l'Internet, on a énormément de ressources numériques accessible, et je pense qu'il faut s'en servir et essayer de trouver d'autres choses que les manuels. Je suis pas c'est bien les manuels au début quand on commence parce que c'est un peu anxiogène puis que ça nous guide, etc., mais je pense qu'après on a tous une histoire scolaire et puis faut faire appel à sa création et à son histoire aussi. Moi, j'irais davantage avec des livres de littérature de jeunesse, clairement. Pourquoi? Parce que d'abord on peut rejoindre l'affect des élèves en allant chercher des livres qui vont peut-être réfléchir à leur culture. On peut aussi, ce qui permet en fait, à partir des prédictions en lecture, eh bien, on peut amener l'élève à susciter son affect, justement, à l'égard d'un livre. Là, on peut aller chercher les mots, puis travailler autour des mots. Et justement les syllabes et le tracé des lettres. Mais l'élève, il y aura toujours un lien entre son affect et la lecture. Il y aura toujours un contexte qui sera là. Puis on sait à quel point l'affect est important en contexte d'apprentissage, parce qu'il faut qu'il soit suscité pour que l'élève ait envie de s'investir dans une tâche. Vio, entre autres, et puis Vandura en ont largement parlé, je rentrerai pas là-dedans, mais il faut que les activités soient signifiantes. Pour qu'elles soient signifiantes et fécondes, il faut susciter l'affect de l'élève, peu importe d'où il vient.
Et le valoriser, ses connaissances. Tu as mentionné plusieurs chercheurs, dont aussi tes travaux. Donc, ça peut être intéressant, des pistes intéressantes pour les personnes qui nous écoutent également. Mais en fait, Lucille et moi, de par nos études, on a beaucoup travaillé aussi avec les ressources de Elodil.
Oui, il y a Elodil, il y a Dulala, il y a Éole. Il y en a énormément de ressources qui peuvent être utilisées aujourd'hui, tout à fait, ouais.
Comme d'habitude, je vais prendre le temps de les mettre dans le descriptif de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent. Comme ça, ils auront la référence facilement ou de façon accessible.
Je veux juste, avant de laisser la parole à Lucille, juste avant que j'oublie, souvent, que ce soit des orthopédagogues ou des profs, les gens vont dire « oui, mais moi, je parle pas toutes les langues de l'élève ». Mais c'est pas l'idée. Je me permets juste de me faire une parenthèse là-dessus. C'est pas l'idée de parler toutes les langues. Ça serait super, mais on n'en a pas les capacités cognitives de toute façon. Mais l'idée ici, qu'on soit enseignant ou qu'on soit orthopédagogue ou qu'on travaille comme personne ressource, c'est de se dire « ok, l'expertise, c'est l'élève qui l'a, c'est pas moi ». Et ça, c'est capital. Donc, l'idée, c'est de se décentrer, d'accepter de ne pas avoir cette expertise-là et de donner la voix aux élèves, d'être entendus, parce que c'est eux qui sont experts de leur langue. Ça, c'est important. Donc, on demande pas, puis parce que j'ai des profs qui m'ont dit « oui, mais si c'est pas bon ce qu'il dit », je dis « mais c'est pas grave ». Il a parlé de sa langue et sur sa langue. L'idée, c'est d'autoriser l'élève. C'est ça qui est important. S'il en a envie, d'autoriser l'élève. Donc, c'est pas grave de pas être expert de la langue. Mais l'élève l'est. Peu importe à son niveau, mais il l'est quelque part. Et ça, ça fait toute la différence, justement.
Ce que je voulais ajouter, c'était avant la pandémie, quand j'étais orthopédagogue à Montréal, on avait commencé un projet de Kamishibai. Ouais. Donc ça aussi, ça peut être une activité. Donc c'est une espèce de théâtre où on écrit dans plusieurs langues pour construire une histoire. Donc ça peut être une activité. Puis là, j'ai mon directeur de mon école qui, lui, fait sa maîtrise justement sur le plurilinguisme. Puis il me parlait de demander à l'enfant de se représenter et de décrire pardon toutes les langues auxquelles il était dans son environnement confronté ou c'est pas confronté mais auxquelles les langues participaient exposées, merci beaucoup, c'est ça, auxquelles il était exposé. Fait qu'il y en a qui avaient dessiné un corps et puis ils expliquaient que le farsi était un endroit, l'anglais, etc. Mais il y en a une qui avait dessiné un arbre et expliquait donc pourquoi l'arbre te représentait tout et tout. Donc il avait une qui avait même marqué la langue de son hamster parce qu'elle rêvait de parler, ouais, avec son hamster pour comprendre ce qu'elle disait, ce que son hamster disait. Donc c'est des petites activités aussi de connaissances aussi de son apprenant. Je trouvais que c'était intéressant.
Diane Farmer a fait ces travaux-là à OESI, justement, avec les représentations du corps et des langues. Il y a aussi tous les travaux de Gail Prezad, qui elle a fait un site, je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez le partager. Elle a fait une expérimentation, entre autres, à Montpellier. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est parce qu'on a toujours tendance à cloisonner les langues comme des monolinguismes juxtaposés qui se parlent jamais. Et puis, c'est toujours « moi, je suis ci, moi, je suis ça ». Aujourd'hui, on est un peu tout, quoi. Je veux dire, on a une identité plurielle, on vit dans une francophonie plurielle. Même si on est locuteur d'une langue ou natif d'un endroit, au contact des autres, on change, on modifie nos représentations. Et c'est pour ça que je crois que l'école… a un rôle capital à jouer dans toute cette dimension interculturelle pour développer l'identité citoyenne. Et justement, plus les élèves seront exposés à ça, plus on va déconstruire des discriminations, des représentations négatives à l'égard des langues ou des groupes ou des individus. Donc, l'éducation, c'est là où tout se joue, quoi. Donc, oui, c'est important. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Il faut les exposer au fur et à mesure et donner. Et ce qui est chouette aussi, qui s'est fait en Belgique, le sac d'histoire, qui a été repris par anciennement l'école montréalaise, je me souviens plus du nom maintenant, mais ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Mais c'est même chose, on propose, on n'impose pas. Mais quand on a des parents qui sont bénévoles et qui traduisent des activités dans les langues d'origine et tout, ça donne des choses merveilleuses, quoi. Vraiment très merveilleuse. Moi, je travaille là sur un projet où on travaille avec des pinces numériques et pour travailler la sensibilité lexicale chez les plus petits, les mots doux, les mots beaux. Donc, ils prennent un mot dans un compte, je travaille avec les populations africaines, donc un compte à l'oral qui va être traduit. Et puis, l'enfant va prendre un mot qui lui plaît, puis il va ramener sa pince à la maison, le faire prononcé par ses parents, on va le réinvestir sur un mur de mots sonores. Donc, vous voyez, il y a plein de façons. Faut être créatif, faut oser. Je pense que aujourd'hui, même en orthopédagogie, on est toujours, ça commence à changer, mais on a du mal. On est toujours dans des pratiques monolingues. Aujourd'hui, il faut envisager la langue autrement, la façon de l'appréhender différemment. Et pour ce faire, il faut un petit peu délaisser ce qu'on a eu dans notre enseignement, pour aller chercher des ressources qui soient beaucoup plus adéquates en fait pour les élèves qu'on a, parce que souvent puis c'est la même chose ici, on a beaucoup d'élèves qui sont suivis, qui ont des PEI etc, mais ces élèves là on se rend compte que finalement ils sont pas en difficulté d'apprentissage, parce que ce qu'on oublie, que tout le monde oublie la plupart du temps, c'est qu'on apprend à ces élèves, on enseigne à ces élèves une langue dans laquelle qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, je ne sais pas si demain, on se retrouvait en Chine à nous faire apprendre le cantonais et puis où on devrait tout réapprendre, redéfinir, une écriture et tout. Je suis pas sûre qu'on ne serait pas dans une situation similaire. Donc, ils sont pas en difficulté. Laissons-leur le temps d'apprendre. Camille l'a très, très bien montré, ça. C'est 2-3 ans à l'oral pour avoir des capacités vraiment, une oralité qui va permettre, en fait, d'être compris des autres, comprendre les consignes. Puis après ça, on est dans des activités cognitives qui sont beaucoup plus conséquentes sur le plan scolaire. Donc, vous imaginez, nous, on leur demande quasiment du jour au lendemain de se lever puis de marcher. Alors, faut être un petit peu plus juste par rapport à ça.
Réviser, c'est pratique. Ce que tu dis, Carole, me fait penser beaucoup à ce qu'une collègue orthophoniste, en fait, dit souvent, qu'apprendre, c'est difficile, mais désapprendre, c'est émotif. Qu'intervenant, je pense que c'est essentiel. Puis, justement, tu nous as partagé de nombreuses pistes intéressantes et très pertinentes basées sur de nombreux travaux et chercheurs qui ont été mentionnés. À travers les différentes donc cet échange, tu nous as également proposé des exemples d'activités à faire, puis justement ça dépend des contextes, il y a beaucoup de ressources aussi en ligne. J'aimerais prendre le temps de te remercier d'avoir pris le temps encore une fois d'échanger sur le plurilinguisme, et puis je sais pas si tu avais un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent.
Non, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, que je veux me permettre d'aborder, c'est ce qu'on appelle la clarté cognitive. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que beaucoup d'enfants sont scolarisés maternelle, même première année, pour l'apprentissage obligatoire, et ont des langues davantage de tradition orale. Et donc, la familiarité avec le matériau écrit, c'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent. Et là, du jour au lendemain, on leur présente un livre ou un matériau écrit, un artefact, peu importe ce que c'est. Puis, il faut qu'ils l'appréhendent comme ceux avec qui sont habitués, socialisés à cela. Alors ça, c'est quelque chose que je vais mettre de l'avant, parce que souvent, même de manière générale, la clarté cognitive, on ne l'enseigne pas. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est important que les élèves comprennent les fonctions de l'écrit, à quoi ça sert, pourquoi on les utilise, dans quel but, apprendre à développer, par exemple, lorsqu'on prend un livre, lui indiquer le bon vocabulaire, la première de couverture, la quatrième, l'auteur, l'illustrateur, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait pas, qui font, comment dirais-je, qui sont comme de l'ordre de l'implicite et de l'évidence, mais qui, en fait, le sont pas du tout. Donc, c'est très important d'expliquer aux élèves, encore une fois, en français, oui, l'écrit, on parle à l'oral, mais on met à l'écrit. Puis quand on écrit, on fait comme ci, comme ça. C'est important de développer tout ce côté méta, parce que ça fait une grosse différence sur l'intention d'écriture ou même de lecture que les élèves peuvent avoir après, parce qu'ils vont comprendre les buts et les fonctions, encore une fois, et les usages de l'écrit.
le valoriser justement parce que ça peut avoir une incidence, si je comprends bien.
Oui. Puis Donny et Fijalkov, c'est vraiment eux qu'on mis en exergue ce concept-là de clarté cognitive. Donc, on a les usages, les fonctions, le code. Donc, ça, tout ça, là, c'est tout ce qui fonctionne quand on lit ou qu'on écrit. Je pourrais vous donner une ressource là-dessus, mais c'est important que faut vraiment prendre le temps de développer ça. Pas tenir pour acquis que les élèves sont forcément familiers avec le matériau écrit. Ce qui n'est pas vrai. Il y a plein de cultures où les pratiques sont davantage oralisées.
Tu parles de pratiques oralisées, mais moi je pense différence de culture au niveau du stylo plume. En France, le stylo plume, ou en tout cas dans notre école, je sais que ça dépend des villes en France, mais des écoles en France, mais le stylo plume, c'est hyper culturel, le journal
Oui.
le cahier du jour, etc. Alors que au Québec, pas du tout. Donc c'est cette différence-là aussi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mis assez en exergue, mais faut pas oublier aussi qu'un élève qui vient d'ailleurs et qui arrive au Québec, dans les salles de classe, ben, les normes socioculturelles sont pas celles qu'il connaît. Et ça, c'est important. Les normes socioculturelles attendues dans l'espace scolaire, il faut leur expliquer aux élèves là aussi. On est dans l'implicite, on tient pour acquis qu'il va le savoir, comme tous les autres, mais non, il ne les connaît pas. Parce que ces normes à lui sont différentes. Et même chose pour les parents, encore une fois, je reviens avec les parents, mais parce que c'est pour moi, l'habitus familial, il est imbriqué, il n'est pas séparé. Donc, c'est très important d'être, encore une fois, l'idée, c'est pas de tout connaître, mais c'est d'être empathique, de parler avec les parents. Je sais qu'on met beaucoup de pression aux profs, qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais si on était capable de créer des liens beaucoup plus signifiants entre l'équipe école et la famille, on aurait déjà énormément de choses de gagner parce qu'on pourrait mettre en place une vraie collaboration, une vraie co-construction concertée entre l'école et les parents, les enseignants et les élèves. Et ça n'a pas de prix, quoi.
Moi, pour rajouter une petite parenthèse à ce que vous dites, moi, je me dis, quand je suis face à des élèves, je me demande en fait s'ils le savent ou s'ils ne le savent pas. Ben, je prends pour acquis que non et je le dis. Et qu'est-ce qui peut arriver en fait? Au pire, ils me le mentionnent. Ah, mais je le savais. Donc, vraiment rendre
C'est ça.
explicite tout ce qui peut être
Oui.
implicite.
Oui, puis quand on a quelques mots dans une langue étrangère, la dire, les enfants adorent ça, hein, quand on arrive le matin en disant buenos días, hein, ou peu importe, ils ont la banane, ils sont contents, ils sourient, puis ça a pas de prix non plus, ça. Puis ça dit à l'élève, bah finalement, ce que je suis, on le reconnaît à l'école, on reconnaît mon identité, ma langue, et c'est ça l'idée, c'est pas encore une fois que les profs connaissent toutes les langues ou les orthos connaissent toutes les langues, c'est de donner un espace où les enfants peuvent faire entendre leur voix, où ils sont autorisés à être qui ils sont, pas être juste des apprenants de la langue de scolarisation. Et ça, c'est important. Ça, je dirais que mon point final, je le mettrai là.
Merci beaucoup encore une fois et le faire à l'année longue, c'est ce que on retient de ce partage très pertinent. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre toutes les références et si tu nous en envoies d'autres en dessous de
Absolument.
l'épisode. Merci encore une fois, Carole.
Ben, je vous en prie avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir. Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akhoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.